Et donc ça tombe bien puisqu'on va reparler d'Harmonium dans cette première partie, vu qu'on va dérouler un peu les films qui sont sortis en France ces derniers mois. Alors notre dernier podcast était consacré au bilan 2016. Du coup, on a un peu fait l'impasse, ou parlé très très rapidement des films qui sont sortis en toute fin d'année 2016. Alors qu'il y a deux films importants pour nous qui sont sortis, Your Name de Makoto Shinkai et Diamond Island aussi de David Chou. Je sais que Gaël, tu avais un peu évoqué Diamond Island, mais du coup c'est l'occasion d'y revenir. Donc on va parler de ces deux films et on va parler des films qui sont sortis en salle en janvier jusqu'en début février. On va les prendre par ordre chronologique. Donc le premier c'est Your Name de Makoto Shinkai, qui a priori devrait être en salle et qui approche les 200 000 entrées, ce qui est plutôt pas mal pour un film d'animation japonais. Qui veut essayer de résumer le film et de décrire ce film dont l'intrigue est un petit peu labyrinthique? Gaël?
Voilà, moi, je pense que je vais m'embrouiller un peu, mais bon.
On va t'aider, je l'ai vu il y a pas longtemps, je vais t'aider.
Ouais. Donc c'est... on pourra présenter ça. Au début, enfin, c'est un film un peu en deux parties, quoi. Donc il y a une première partie où c'est une adolescente qui, en fait, se comporte un peu étrangement et s'aperçoit en fait que elle est un garçon dans sa tête.
Ce qu'il se raconte là, elle ne se reconnaît pas en tant que femme, en tant que fille.
Ah oui, c'est vrai.
Questionne le genre.
Et parallèlement, il y a donc elle vit à la campagne et parallèlement il y a un jeune homme, enfin un jeune garçon qui lui aussi a les mêmes problèmes.
En fait, ça parle de transmutation.
Oui, voilà, c'est ça. C'est
ça. Moi j'ai dit que j'allais m'embrouiller. Hein. maintenant, je me suis lancé. Enfin voilà. Et voilà, mais enfin, si tu veux reprendre sans problème,
je peux essayer de reprendre. Je suis pas sûre de mieux me débrouiller que toi, en
D'accord.
fait. Donc, on suit une jeune fille qui vit en campagne, en parallèle, un jeune homme qui vit à Tokyo. Et en fait, les deux se rendent compte à peu près au même moment que quand ils se réveillent un matin, en fait, ils ont permuté. Donc, la fille se retrouve dans le corps du jeune homme et inversement.
Permuté.
Oui, bon. Et la suite.
Mais c'est aussi, c'est par le regard des autres qu'ils s'en aperçoivent.
Oui, ils s'en aperçoivent par le regard des autres, en fait.
Parce c'est que... en fait de souvenirs, ils pensent être dans un rêve, les jours où ils ont eu cette espèce de permutation.
Ils s'en rendent compte au fur et à mesure, quand même.
Ils se rendent compte au fur et à mesure quand ils comprennent qu'ils peuvent se laisser des mots, en fait, l'un
du
à l'autre.
Du coup, le pitch est pas évident. Par contre, le film le montre avec une limpidité et une simplicité totale.
C'est la grosse force du film.
De manière très, très facilement.
On comprend tout dans le film, il n'y a pas de souci, alors qu'à raconter, c'est un bordel innommable.
Voilà.
Et alors, Elvire, qu'en as-tu pensé ?
Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'aime beaucoup Makoto Shinkai, donc j'y suis allée, en fait, avec un avis plutôt positif sur le film. J'ai passé un très bon moment, j'aime toujours son coup de pinceau, même si les dessins des personnages m'intéressent moins, mais j'aime beaucoup la façon dont il a de représenter les paysages, que ce soit à la ville ou à la campagne, la lumière, j'aime énormément ça. C'est un joli film, un scénario intéressant comme il en fait souvent. Après, j'ai quelques réserves parce que je trouve que ça commence à devenir un peu de la guimauve au fur et à mesure de ces films, en fait. Il passe un degré supérieur à chaque fois. Non, mais justement, ça a toujours été un petit peu guimauve, mais à chaque film, il y a un degré de plus de mièvrerie, et enfin moi je commence à avoir peur pour le prochain, en fait.
Mais non, justement là il retombe à quelque chose de plus hard, vu que je vais pas dévoiler le truc, mais il se passe
dans la manière dont il le montre, il y a un côté bon, vous allez pleurer, bordel de merde. Et
ben c'est bien de pleurer.
Non, mais j'aime pas quand on me montre, en fait, qu'il faut que.
Non, mais ça ressemble.
Qu'il faut que j'ai de l'émotion.
Juste
et que...
parce que là, ça va devenir un peu cryptique.
Oui.
On va lancer une alerte spoiler.
Oui,
passer exactement 5 minutes. Allez, voilà. Passer exactement 5 minutes. Pendant 5 minutes, on va quand même parler du cliffhanger du film. Parce que sinon, on va pas pouvoir parler du film si on parle pas de la deuxième partie. Donc voilà, vous pouvez dévoiler.
Mais moi, c'est sur les méthodes mises en scène mises en œuvre qui m'ont un peu agacé. C'est ne parlons pas de la musique, qui est juste une très catastrophe.
Brad Wims, très bonne.
Il y a des, les procédés de d'écho perpétuels en fait quand les personnages hurlent dans le ciel, moi qui
non mais ça oui avec la caméra qui monte dans le ciel comme ça.
Ça marche une fois, deux fois, trois fois, au bout de la dixième fois en fait j'en ai marre.
En fait, ça ressemble plus à un animé de manga qu'un vrai film.
Mais quel est le problème justement de l'animé de manga ?
Il y en a qui sont très bien, mais sur un film, ça marche sur 20 minutes en général.
On sait effectivement que le film a été un carton absolu au Japon. Il est entre.
D'un monde entier en fait.
Et dans le monde entier, c'est vraiment un monde entier.
Voilà, il a dépassé Shihiro actuellement. Et c'est vrai que du coup, Makoto Shinkai prend aussi et surtout pour parler au public japonais. Des conventions qui viennent plutôt de l'animation. D'ailleurs, on trouve effectivement quasiment des génériques toutes les demi-heures. Il y a une partie chantée.
Là, t'as l'impression que c'est plusieurs épisodes montés les uns après les autres. Quoi. À chaque fois, t'as
je suis presque devenu diabétique pour aller
suivre plusieurs séquences.
J'avais besoin d'une petite cure d'insuline à la fin.
De genre, quand on passe d'une partie qui peut être vue comme un épisode d'une OAV ou d'une série à une autre. Ce qui veut dire qu'il fait quand même quelques concessions. Pour en tout cas parler au plus grand nombre, ce qui a très bien marché vu que le film.
Oui, c'est ces concessions-là que je reproche un peu, moi.
Et du coup, Kefren, que tu vois pas ça comme des concessions qui sont faites à son, à son cinéma.
Non, mais je veux dire, c'est peut-être des concessions, mais il a fait en sorte que dans le film, ça ait un sens. À chaque fois que le film se coupe, il va de plus en plus dans quelque chose de plus grave. Le temps qu'il y a au début.
Mais il est où l'intérêt de mettre des clips musicaux en plein
milieu? C'est quoi l'intérêt pour le film?
C'est juste de montrer que le temps passe.
Il aime bien.
Comme ça, chier, ça, t'as pas besoin de faire ça.
Il fait ce qu'il veut. Mais pour moi, ça fonctionne en tout cas.
Il fait ce qu'il veut, mais le résultat avec ses mièvres. Non,
le résultat, c'est que ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne. Et peut-être justement, c'est parce que vous n'avez pas la même culture de l'animation que pour vous, ça fonctionne pas.
Mais on s'en fout de la culture.
Non, c'est censé. Justement, parce que si le film a fonctionné avec les jeunes, c'est parce qu'il a compris justement des codes et quel langage utilisaient les jeunes et quel langage visuel.
Alors, est-ce que c'est pas cynique ça avec, plutôt,
donc ça veut dire qu'il faut, il faut être dans la classe d'âge en fait pour pouvoir regarder ce film.
Non, je dis juste que par exemple, si moi je trouve ça accessible et que ça me touche. Je
pense
que
non, mais j'en ai vu des animes et ça fonctionne très bien en anime, mais voir ça sur un écran de cinéma, c'est pas la même chose.
Non, mais les animés actuels ne sont pas les mêmes.
Mais non, mais écoute.
Non, ils utilisent pas le même langage.
Mais j'en regarde des animes encore aujourd'hui,
Alors, je comprends pas votre argument. Alors, si vous savez comment fonctionne l'animation actuelle, d'où vient cet argument?
Mais on n'est pas obligé d'apprécier, en fait.
En fait, moi.
Mais ça vient seulement de ressentir dans ce cas.
Pour moi, l'histoire qui est en elle-même assez magnifique, je trouve. Elle n'avait pas besoin de ça, quoi. Elle n'avait pas besoin de coupure. Oui. Ça pouvait être fluide du début à la fin. Et moi, ça me sort du film, en fait, cette espèce de moment où t'as les deux personnages qui sont ensemble et qui ont une révélation, genre, ah, mais oui, c'est ça, avec les deux voix en même temps,
et
la caméra qui part dans le ciel avec la grosse musique
pas.
Derrière.
Moi, je trouve ça hyper
c'est
beau,
pas possible,
ça
c'est pas.
Mais moi, je trouve ça très beau une ou deux fois, en fait. Après, c'est.
Est-ce que le souci, c'est pas que ce ne soit pas des procédés qui soient cinématographiques, mais des procédés qui soient sériels.
Voilà, c'est-à-dire
qu'on arrive au bout de 30 minutes à un cliffhanger et une révélation de série télé, on a un générique et on passe justement à la suite. Ce qui, j'entends ça, je trouve que c'était effectivement des concessions qui étaient faites au grand public japonais qui peuvent marcher, mais du coup qui se disent effectivement, Makoto Shinkai avec ce film parle à des gens qui regardent des séries animées aujourd'hui.
Mais oui, c'est ce qui me dérange actuellement en fait, dans les séries animées aujourd'hui. Donc forcément, en regardant ce film-là,
mais quel anime
je vais retrouver en fait les mêmes tics qui m'agacent en fait. Après, ça reste un très bon film. J'ai juste dit que j'avais des réserves.
Non, mais l'anime, t'as une structure que tu l'as vu en début des années 2000 ou maintenant, c'est une structure d'anime, mon gars. T'as un générique, t'as un truc après, t'as une coupure pub. C'est la même chose, mon gars.
C'est leur moyen.
La question, c'est quel est l'intérêt de parler à ce public-là, d'avoir des stéréotypes et un fonctionnement qui marche pour la série animée dans un long métrage de cinéma. C'est-à-dire qu'il raconte pas une histoire en 2 heures, il raconte une histoire en 4 fois 30 minutes.
Ça participe à une sérialité du cinéma, à une espèce de nouvelle forme qui existe aussi en Occident maintenant. Enfin, je veux dire, par exemple, les séries Netflix, des fois, sont des films de 8 heures et fonctionnent. Quand on regarde Sense8, par exemple, c'est un film de. Ah, si, il y a un climax tous les 3 épisodes. puis la série recommence.
Bah, c'est pas, bah, alors, c'est
et
pas
les Wachowski qui disent l'avoir fait comme ça, donc c'est une nouvelle forme et on doit, enfin, je dis pas on doit l'accepter, mais elle existe en fait maintenant. Donc qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une nouvelle forme et ils tentent des choses.
Maintenant. Cette forme était déjà là, un petit peu.
Fait, oui. On aurait pu en faire une série en fait.
Oui. Mais il utilisait.
Effectivement, ça m'étonne pas qu'il.
Mais est-ce qu'il y a une musique pop en plein milieu qui te coupe comme un générique? Non.
Eh bien.
Il utilisait déjà un petit peu cette forme avant. C'est pas... Là, il l'a accentué. Il l'utilisait déjà un petit peu. En fait, moi, ce que je lui reproche, c'est d'avoir accentué tout ce qui était déjà à la limite dans ses précédents films, en fait. Et maintenant, ça devient larmoyant, guimauve.
C'est exactement,
et ça m'agace un peu, quoi.
C'est exactement ce procédé qui m'avait gonflé dans Garden of Words, qui est pendant 45 minutes un film magnifique. Super sensitif, poétique, tout ça. Et à la fin, il te fait la grosse musique qui part d'un coup, avec les.
Je suis d'accord.
Qui te gâche tout le film.
Mais c'est pour ça que
je dis. Ça te gâche complètement la fin.
C'est pour ça que je dis. Après, comme dit Gefren, il augmente un peu.
Comme dit Gefren, il n'a pas tort, c'est culturel et que. Après, ça touche des personnes et ça touche. Voilà. Mais.
C'est lourd.
Mais oui, ça peut vite être lourd.
Enfin, ouais, c'est.
En fait, c'est pas. Ça te sort du truc, quoi.
Oui, moi, ça me sort complètement.
Ça m'a surpris, en fait, moi.
Et puis, moi, j'ai toujours l'impression que c'est. Qu'il essaie d'appuyer sur la corde sensible, mais
un peu quand même,
à force d'appuyer.
Non, mais ce qui est opportuniste,
en fait, c'est
très comme il y a quand même la grosse machine commerciale derrière.
Ah,
les groupes sont sélectionnés,
ils
en castent au moins.
C'est un seul groupe, et justement, c'est pas un groupe connu, justement.
Mais je n'ai pas dit que c'était un groupe connu, mais ça fait partie du contrat, quoi. T'as l'impression que c'est un contrat où il faut tel machin, il faut de la musique, tel machin, il faut. C'est la machine commerciale derrière.
Ils ont écrit spécialement, justement, et c'est un groupe indépendant qui a écrit spécialement.
Ça va leur faire un coup de pub énorme.
Voilà.
Et alors ?
Oui, non, mais c'est.
Il y a un contrat commercial derrière, quoi.
Ils prennent un groupe indépendant, ils leur font participer au processus créatif du
groupe. Je vois du point de vue inverse, c'est-à-dire que c'est Makoto Shinkai qui utilise des codes d'un genre très, très populaire pour parler à ce public. Après, c'est justement, qu'est-ce qu'il dit à ce public ? Effectivement, il y a, la première partie se regarde plutôt très bien, on arrive dans une deuxième partie qui évoque effectivement un drame national qui est Fukushima, voilà, sur la disparition d'un village. Après, on peut lire dans Clap bientôt l'interview de Fukada qui trouve justement qu'il y a une certaine hypocrisie à revenir, donc c'est Jérémy qui a fait cette interview, à revenir sur le fait que, comme par magie, en fait, toutes les conséquences de ce drame sont effacées pour faire place à la romance dans le film. Et ça aussi, moi, la fin m'a un petit peu gêné par rapport à ça, c'est-à-dire que les conventions qui sont un peu des conventions de production pour que le film marche, pourquoi pas. Et finalement, parler d'un sujet aussi grave, c'est extrêmement intéressant, mais au final, il se recentre complètement uniquement sur l'histoire d'amour. Du coup, on perd tout cet intérêt dramatique qu'on a pu avoir au niveau de l'évolution. Effectivement, on peut se demander... Ok, il a pris cette forme pour parler aux spectateurs d'une certaine manière, mais au final, il l'annule dans son final qui est plutôt optimiste.
Ouais. Le final n'est pas vraiment optimiste, en fait. Il se finit sur un cliffhanger, le film, il se finit sur leur rencontre, justement.
C'est pas... C'est
optimiste. Ça se finit sur la rencontre.
Alors, juste un dernier truc. Et après, Elvire, il reprend quand même à peu près la même structure de 5 cm par seconde, où les deux personnages ne se croisent pas et ne se reconnaissent pas. Et qu'on retrouve hein, d'ailleurs dans le tour de la dénuée,
finalement,
le rêve a été oublié et puis l'amour a disparu. Et là, on sent quand même, et ça se termine, sur le fait que y a quelque chose qui va commencer.
Bah, bien
donc
sûr.
Ça reste optimiste. C'est quand même.
C'est super optimiste, arrête.
Mais quand même, il y a une partie quand même qui est déchirante où ils sont au même endroit et ils ne peuvent pas se parler. Ouais. Et justement, ça, il vous dit que. Il s'est passé un moment où on pouvait plus communiquer. Et ça, déjà, c'est déjà beaucoup, en fait, pour parler à des jeunes.
Mais toi, tu vois ça, mais quoi, c'est pas ce qui va être vu pour 90% des gens, quoi. Mais la cible, c'est pas toi la cible.
Bon, Gaël, parce que t'as pas du tout parlé sur.
On insiste un peu sur le côté un peu drame, tout ça, mais enfin, toute la première partie est surtout très drôle. Enfin, je pense que c'est un film son film le plus commercial, hein, mais je pense pas que ça soit négatif. Moi je connaissais pas le groupe en question, donc moi j'avais surtout pensé à la J-pop et tout ça, donc ça fait un peu faire plaisir un peu aux jeunes, quoi. Enfin, même en France, où effectivement les plus jeunes, enfin, visiblement, écoutent de la J-pop en France. Hein, donc je pense qu'il y avait une démarche très commerciale de sa part. par rapport en tout cas à ses autres films que j'ai découvert à peu près au même moment, qui sont plus au final austères, je trouve. Mais c'est très positif aussi. Hein. Donc je pense qu'il a voulu faire un film un peu plus commercial, selon moi. Et mais par contre, justement, dans ce caractère commercial, essayer de plaire au plus grand nombre, il arrive quand même avec un film qui est, d'un point de vue qui est soit est ultra complexe. Enfin, on a pas réussi à résumer le truc. Donc, d'un point de vue artistique, c'est quand même assez épatant d'avoir réussi un coup commercial comme ça. Enfin, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi des. Du coup, on a dit juste une histoire de transmutation de corps, c'est aussi un dialogue entre deux époques différentes, en fait.
Il y a un décalage temporel et
deux personnes qui commencent à dialoguer dans des temps différents. Et je trouve ça assez épatant qu'il ait réussi à faire ça dans un cadre de film commercial. Ouais, c'est...
Même si c'est pas très crédible. Non, mais moi, ils ne se rendent pas compte, même s'ils sont dans un état onirique et dans un rêve, qu'il y a quand même 3 ans qui les dépassent et que jamais il y a une date qui est donnée alors qu'ils écrivent.
Bah, c'est-à-dire qu'en même temps, il faut se mettre un peu à leur place. Ils ont déjà ce choc de transmutation de corps. Et donc, c'est déjà un premier choc. Donc ils vont, le fait qu'il y a aussi un problème de temporalité, j'imagine que c'est pas, il faut se le mettre aussi.
Dramatiquement, ça fonctionne en tout cas.
Oui, parce qu'il y a un cliffhanger. Moi, je l'ai vu deux fois du coup, et la deuxième fois, tu te demandes comment.
Non, mais le vertige,
c'est pas plutôt, il y a pas du tout de d'indices qui sont donnés aux spectateurs. C'est plutôt ça qui
en fait j'ai pensé au film là de Villeneuve et où justement je trouve que c'est beaucoup moins bien amené
qu'est-ce
qui est moins amené premier contact ou
la question de la temporalité
non mais dans quel film
non c'est
premier contact
c'est moins bien amené que dans
Putain, t'as déliré, toi.
Moi, je mets que dans le contraire.
le drame qu'ils ressentent, c'est pas le fait qu'ils soient dans deux temporalités différentes, c'est le fait surtout qu'elles soient mortes, en fait, qu'ils parlent à quelqu'un qui n'existe plus, et c'est ça le grand drame du film. Et c'est ça, justement, qu'ils le.
Ah non, parce que justement, après, elle revient.
Elle revient parce qu'il l'a sauvée dans.
Mais oui, mais voilà.
Je parle de la scène où ils sont sur le volcan.
Cette scène avec les échos toutes les 3 secondes.
C'est parce qu'elle n'existe plus, c'est ça qui.
Oui, mais la scène qui est vachement bien, mais du coup, comment justifier cette fin alors ?
Bah oui.
Pourquoi annuler tout ça ? Pourquoi annuler cette scène dramatique ?
Pour que ça se termine sur
elle aurait dû rester. Elle aurait dû rester morte.
Parce que justement.
Parce qu'il faut que ça se termine sur un billet, bordel.
Oui, mais justement, il donne une note positive.
Je croyais que c'était grave et.
Il lui dit non parce que justement, en allant dans la ville.
Finalement, c'est pas super grave. Il a pas eu les couilles.
Il les a pas posées sur la table. Il s'est pas dit.
Il a pas eu les couilles.
Dans cette séquence sur le volcan, il se passe énormément de trucs et dans.
Avec de la musique de merde toutes les 3 secondes. Et dans la ville. Tu sais que le discours qui est grave, en fait, t'as quasiment envie d'en sourire.
C'est que justement, il y a un dialogue des générations qui se fait aussi, qui est montré. Par exemple, la fille essaye de dire qu'il y a le drame. Elle, en tant que jeune, elle essaye de prévenir les anciennes générations qu'il va se passer quelque chose et personne.
Non, mais ça, c'est le classique du film catastrophe, quoi.
Non, c'est pas le classique du film catastrophe.
Bah, si, un peu quand même.
Non, personne n'a voulu m'écouter. Mais...
Non, mais quand elle le fait dans son système archaïque japonais, ça veut dire quelque chose en tant qu'elle qui est descendante
du film. Non, mais je suis d'accord.
On peut voir le film comme ça, c'est-à-dire que si ça parle de Fukushima et de la disparition d'un événement national, ça veut pas dire que ça disparaît. Ça veut dire qu'en fait. Si on était au courant et si on avait fait les choses correctement, et si le Japon avait fait les choses correctement, ça aurait pu ne pas arriver.
Mais oui,
ça peut être aussi un discours du film, et on le voit un peu rétrospectivement.
Est-ce que je vais enfin pouvoir parler, bordel de merde ? Après 10 minutes d'attente, je prends enfin la parole. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il avait un discours super grave, qui est totalement désamorcé par la mise en scène, en fait. Et c'est ce que je lui reproche en ce moment.
Ah non, pas du tout.
Bah si, parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression en fait qu'on me dit toutes les 3 secondes d'être ému, d'avoir la larme à l'œil. Et du coup, je trouve que les procédés prennent le pas sur le discours en fait. Le discours, faut réfléchir au film pour se dire putain, mais c'est vrai qu'il dit ça quand même. Et moi, le seul truc dont j'ai retenu, c'est de la musique Tony Tru.
De toute façon.
Mais, je te remercie, Kefren. Sans toi, je serais vraiment conne ce soir.
Alors, pourquoi tu dis ça? Je ne comprends pas.
Oui, sauf qu'il y a des films où tu sors d'une séance, en fait, t'es plus marqué par le discours que par les procédés mis en scène. Et moi,
alors même la mise en scène parle déjà en tant que discours du truc, donc tu pourrais réfléchir sur la mise en scène de toute façon.
Ok, okay. Je prendrai des cours avec Kefren Montout l'année prochaine, parce que je suis un peu nul en cinéma, en fait.
On va tourner un peu rond, parce qu'on revient sur les conventions du film, dont on parlait au début, et en fait, qui effectivement... peuvent prendre le pas sur ce que veut dire le film.
Et je suis d'accord. Donc,
je pense que ça peut être les conventions sérielles dont on parle.
Non, mais c'est juste ça. Il montre ça que le temps passe. Après, il y a plein de matières. D'autres trucs. Vous pouvez pas vous laisser seulement berner par ça. Ça, c'est du.
Là,
vous,
non, et c'est manipulateur aussi.
Vous vous foutez un peu de moi quand vous dites que le film se résume à
ça. Non, mais pas que ça.
On te dit pas qu'on a parlé de chiens.
Et que soi-disant toute la gravité du film disparaît parce que.
Mais oui, si, ça disparaît. Ça disparaît, je suis désolée.
Non, pas du tout. Mais non.
Ça disparaît. Ça disparaît pas tout le temps.
Mais c'est mis en second plan à chaque fois.
C'est mis en second plan parce qu'il y a petites minutes où il y a de la musique.
Mais non, arrête. Mais non, c'est pas qu'il n'y a pas vu de même que nous.
Pour nuancer, il y a des vrais moments de poésie, de beauté, de beauté tragique dans le film, où justement tous les moments où il n'y a pas cette musique. Et c'est juste.
Non, mais il n'y a pas que la musique.
Non, mais il n'y a pas que la musique.
Tu le mets sur. On parle que de la musique, mais il n'y a pas que la musique.
C'est
même en termes d'émotion.
Mais il y a des moments où ça marche.
Non, mais évidemment, mais le film est raté.
Le film est très bien.
Le film est très bien.
Le film est très bien. Inégal, en fait.
Non, en fait, le film est très bien.
Mais c'est juste qu'il est manipulateur. Il est parfois manipulateur dans ses façons.
Mais pas tout le temps, c'est ça.
Pas tout le temps. Non, mais d'accord, regarde. Vas-y, ressors-nous encore, vas-y.
Allez, fais des citations, mon gars. Vas-y. Où est l'argument d'autorité, en fait?
On a compris, mais. Un peu de nuance,
sans Kefren, on comprendrait pas le cinéma.
C'est pour ça que je suis là.
Je suis qu'au premier étage, qu'est-ce que ça fait chier.
Le plus formaliste d'entre nous. Ah ben oui. Et du coup, là, tu dis, non, il faut s'intéresser au discours du film.
Non, mais l'esthétique du film parle.
De la forme du film, quoi, c'est ça.
Mais la forme du film parle déjà pour le film. Le film, il pourrait le faire sans dialogue, pour moi, il fonctionne aussi.
Bah, ce serait vachement mieux d'ailleurs.
Oui, moi je suis d'accord. Il aurait pu le faire sans dialogue.
Alors, donc, Your Name, vous pouvez le voir maintenant quasiment en vidéo, parce qu'il est sorti il y a longtemps, en tout cas, c'est un film intéressant, c'est le 28 décembre. Un autre film qui est sorti le 28 décembre, sur lequel on va aussi revenir peut-être plus brièvement, parce qu'en plus, je pense qu'on est assez tous d'accord sur en tout cas ses qualités plastiques, c'est Diamond Island de David Chou, dont on parle depuis sa découverte.
Depuis Cannes. On suit un jeune garçon et sa bande d'amis ouvriers donc sur l'île de Diamond Island, qui est une sorte de presqu'île en fait, rattachée à la capitale du Cambodge, où va être construit de nombreux buildings en fait, et donc les ouvriers travaillent et vivent au même endroit. Donc on suit ce jeune homme qui retrouve par pur hasard son frère, qui a une vie beaucoup plus luxueuse que lui.
Mais interroge. C'est pourquoi?
Complète, vas-y.
Mais non, parce que c'est un jeune protégé d'un oui.
Ouais, c'est ça.
Et donc, on sait pas trop ce qui se passe là.
Et donc, lui, il va être tiraillé, en fait, entre sa vie au camp avec ses amis, la fille qu'il aime beaucoup. Tout se passe autour de la Saint-Valentin, en fait, au Cambodge, donc sur quelques jours. Et il va être tiraillé, en fait, entre cette envie de rester avec ses amis, cette jeune fille dont j'ai oublié le prénom aussi, et l'envie de partir avec son frère. Partir aux États-Unis, je crois, à un moment donné, il y a un projet de partir aux États-Unis. Ouais, et avoir la belle vie, en fait, et ne plus vivre dans ces sortes de bidonvilles à Diamond Island.
Et chanter du karaoké.
Et chanter du karaoké. Voilà, je suis donc la personne qui résume les films ce soir.
C'est très bien. Et Yougaël, pourquoi David
Chou
est un cinéaste
à suivre? Parce qu'il est chou.
J'avais bien expliqué dans les podcasts, je trouve. Et là, je crois que je me... c'est un peu moins bien.
Tu pourras relancer le débat.
Oui, non, mais c'est un cinéaste important, David Chou, pour le Cambodge, parce que déjà, en fait, il est en train de faire renaître le cinéma au Cambodge, enfin, tout simplement. Le cinéma qui a été décimé avec les Khmers Rouges. Donc voilà. Et
il avait fait un premier documentaire qui s'appelait Le Sommeil d'Or,
voilà,
sur justement
cette disparition du cinéma à cause des Khmers Rouges. Et donc là, avec Ricky Pan, ils sont en train de relancer le cinéma cambodgien. Et donc rien que pour ça, bah, ça lui donne cette importance. Et en plus, mon avis, c'est aussi que c'est aussi un immense cinéaste. Et c'est un pote, donc.
Donc là, tu vois, tout de suite, ça gâche un peu le.
Ah oui, non, mais voilà, c'est là où
non, je suis. Non, mais il est un peu pote avec tout le monde en même temps. C'est cool, voilà.
Non, mais il est adorable, quoi. Donc,
alors,
mais
il est chou.
Non, je le connais pas
très bien. Alors, pourquoi est-ce que c'est un cinéaste important et à suivre? Parce que, de manière objective.
Parce que c'est pas de gay, là.
Et j'aime bien sa coupe de cheveux.
Et qu'on réussit à chaque fois à faire des interviews avec.
Mais je l'ai vu à la Cinémathèque, là, l'art sympa, donc je veux bien être son pote aussi.
Davy, si tu nous écoutes.
Et donc, non, mais en fait, le film est bien parce qu'il arrive à suivre les jeunes en adoptant un peu leur point de vue et même au niveau de la lumière et de la mise en scène, il prend un côté onirique, même sucré, coloré des fois, pour embrasser leur regard en fait. Et on a la vie, on a leur vie qui est dure, mais qui ne semble pas si dure que ça quand on la voit de leur point de vue en fait. En fait, il désamorce la violence un peu du truc avec en suivant le quotidien des jeunes, justement en se mettant à leur priorité sur ça, faire la fête, rencontrer des filles, etc.
Un autre niveau, c'est un peu comme Tomita dans Bangkok Nights en fait.
Après on voit quand même, enfin du coup ça reste hors champ justement, mais il y a quand même un accident de chantier, enfin
mais justement
sur les chantiers, mais c'est vrai qu'il y a une priorité
ils restent jeunes, donc ils sont là pour s'amuser, quoi,
qui est au centre du film. Il y a les sorties nocturnes qui sont extrêmement importantes.
Ouais. Mais la
violence n'est pas exemple du film. Mais c'est juste qu'il choisit d'adopter le regard des jeunes plutôt que de travailleurs, en fait, plutôt que d'employés ou qui sont asservis au système. Il essaie plutôt de se concentrer sur la jeunesse des garçons.
Et des filles.
Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Diamond
Island? Non, c'est cool.
Donc, du coup,
Je rajoute juste qu'il y a aussi, ce qui participe aussi un petit peu à tout ça, c'est qu'il y a un réel travail sur les couleurs, le contraste, le fait que Diamond Island soit quand même un endroit qui est assez lumineux, qui promet beaucoup, en fait. Et
le soleil qui se réfléchit sur les façades, des trucs comme ça. De l'autre côté, c'est vraiment plus la nuit. Le monde de la nuit, quoi, la plupart du temps, qu'on les voit.
Même des fois, la mise en scène est grandiose. Enfin, des fois, il y a des plans qui ressemblent à Akira.
Et pourtant, il s'en est pas inspiré, parce qu'il l'a
pas vu.
Il a pas vu Akira.
Tu lui diras
Qu'il
y a
des plans. On lui a déjà dit, en fait. Il nous a répondu qu'il s'était inspiré aussi de l'univers du jeu vidéo. Donc je pense que l'univers de jeu vidéo qui s'est inspiré d'Akira, enfin bref, il s'est inspiré d'Akira malgré lui, sans le savoir.
Des citations au second degré, je pense qu'ils viennent de là. Donc c'était Diamond Island de Davy Chou qui est en salle depuis le 28 décembre. Si vous vous dépêchez, vous pouvez aller le voir. On va passer au blockbuster de
la grande muraille.
Voilà, c'est La Grande Muraille de Zhang Yimou.
Avec Matt Damon.
Jérémy, de quoi ça parle?
La Grande Muraille.
Alors, ça parle d'un tandem
sur la Grande Muraille.
D'occidentaux, des mercenaires,
Matt Damon
qui sont interprétés par Matt Damon et notre ami Pedro Pascal.
Quel
genre
de merde!
Ah bah dis donc!
Ce racisme primaire là!
Pardon!
Bon, t'imagines s'il nous écoute? D'ailleurs, dans le film, c'est pas génial non plus quand il prend la cape de Torero.
C'est ça, ouais! Mais en même temps, moi je suis peut-être pas
gros stéréotypes qui.
Parce qu'à l'époque, ça se faisait, enfin voilà, ils savaient que ça. Vous attirer les.
Bah, si ça se faisait dans ce cas-ci.
Oui. C'est un espagnol, quoi.
Ça passe.
C'est un tandem de mercenaires qui partent en Chine à la recherche de la poudre à canon pour pouvoir aller buter tout le monde. Et donc ils se font poursuivre pendant des heures et des heures par des sauvages, par je sais pas qui. et donc ils tombent au pied de la muraille de Chine.
Ça a l'air super précis.
Des méchants.
L'équivalent des Indiens manchus. Ah oui,
ils sont recueillis par ils tombent au pied de la muraille de Chine et sont recueillis par les gens qui sont dans la muraille de Chine. Et donc voilà, et de là, et ils apprennent qu'il y a une bataille millénaire entre les Dandi et les méchants monstres.
Encore plus méchants.
Que les méchants.
Et, méchants.
Les méchants des méchants. Et donc c'est des monstres millénaires. Et donc ils vont tomber au centre de cette lutte. Et voilà. Et ça va bastonner grave. Et ils vont apprendre grâce aux gentils.
Et la confiance.
La confiance. Très important. Et le poulet.
Il va apprendre à se battre. Il va apprendre à se battre pour une cause aussi.
Il est rabien. Tu nous rappelles pourquoi c'est un bon film?
parce que dit comme ça, on n'a pas l'impression quand même.
Avec un
bon film. C'est un bon film parce que c'est un film de Zhang Yimou.
Voilà. Non mais c'est nul comme argument.
Et donc si vous connaissez Zhang Yimou, vous savez pourquoi c'est un bon film.
Toi aussi.
Ah non, non, Kefren, t'as pas le droit de dire
ce qu'il critiquait tout à l'heure, les mecs, la politique de l'auteur et tout.
C'est parce que j'ai dit qu'il en faisait de la politique de l'auteur.
Et donc Zhang Yimou, il aime bien parce qu'il aime bien les couleurs et tout. Et donc,
il met 6 couleurs dans un plan.
Voilà, et donc. Mais dans le film, en fait, on pense que. Zhang Yimou, on pense que c'est caricatural, les couleurs et tout, depuis Héros et tout. Mais en fait, à chaque fois, il donne un sens. Enfin, même dans Héros, ça avait déjà un sens. En fait.
Oui.
Mais il donne un sens aux couleurs. Et c'est juste pour, en fait, pouvoir organiser le monde, ce qu'on voit à l'image, de manière purement picturale, en fait.
Et ce qui est génial, c'est qu'il y a même un personnage à un moment qui dit exactement à quoi
voilà, correspond les couleurs.
C'est super cinématographique.
Oui, non, mais une fois,
un peu con pour comprendre.
Qu'il c'est con, quand même. Il y a de la didactique comme ça.
Oui, oui, oui. Les
mecs, ils font
que des filles.
Non, mais t'es dans un. Quand t'as pas un blockbuster.
Voilà,
alors ça te gêne pas quand c'est un gros blockbuster américain qui te montre
en
4 fois.
Mais si, ça me gêne.
T'as chier.
Les couleurs chez Zhang Yimou.
Et donc, oui, au début du film, c'est énoncé. Mais une fois que c'est énoncé, justement, ça permet de se retrouver dans le film et d'avoir une organisation. Et même Zhang Yimou joue avec ça et construit les plans de manière à ce que les couleurs soient mises en évidence. Et en fait, il y a une esthétique de l'action et du mouvement qui permet au film de briller dans le tout venant du blockbuster actuel, surtout que c'est la première collaboration américano-chinoise comme ça mutante, et justement ils battent justement des espèces de bêtes mutantes qui sont là pour l'avidité, justement un peu comme
pour la précision, vraiment il y avait eu d'autres capitaux chinois qui avaient été extrêmement importants dans des blockbusters américains depuis
Iron Man 3,
oui mais là c'est le premier
Karate Kid.
Oui, mais c'est le premier.
2012
En 2012, ouais.
Ça fait quelques années que ça traîne quand même.
Mais du coup, c'est vrai que c'est la première fois qu'on sent plus le fait que ce soit vraiment un film chinois qui bénéficie aussi de l'apport technique américain. Et donc, il y a une vraie mutation qui se crée et que c'est pas juste des.
Mais attends, en termes de mise en scène, ça ressemble pas à ce que tu vois aux États-Unis.
Est-ce que ça ressemble à un film de
Non, mais c'est.
Oui,
non, non, il faut rappeler que je critique, c'est l'apport américain, quoi.
C'est Matt Damon, l'apport. Attends, non, mais.
Les acteurs et le fric.
Non, mais visuellement, c'est quand même mieux que les blockbusters que tu vois de Stephen Chow ou.
Oui, mais c'est pour. Justement.
Visuellement. Non, mais en termes d'effets spéciaux.
Yannick n'est pas là.
La fin est dégueulasse, la fin avec les tours, là.
Flavien.
Non, faut juste rappeler que le film est produit par Legendary.
Mais ça a été racheté.
Ça a été racheté par qui?
Par la Chine. Enfin, la majorité du capital a été racheté par la Chine.
Par la Chine. Donc, ce qui explique aussi pourquoi ce fameux apport d'Hollywood là-dessus. Enfin, je vois là que c'est. Je pense que c'est le premier film qui bénéficie de ça, en fait.
Il y a une vraie mise en avant. Il y a une qualité plastique qu'on ne retrouve pas dans la
production chinoise.
Dans la production chinoise, au niveau des effets spéciaux.
Oui. Alors que là, c'est un vrai apport. Quoi. Il y a la mise en scène de Zhang Yimou qui est vraiment... Oui.
Ils ont eu
qui est vraiment ça change vraiment du tout venant américain. Voilà. Il y a l'apport américain en termes financiers, et puis la star qui est Matt Damon qui apporte quand même, et puis au-delà de tout ça, au-delà de tout ça, c'est un, quoi, c'est un vrai bon film d'aventure. Voilà, c'est un bon film d'aventure. Si, ouais, moi ça marche, quoi.
C'est un peu con.
Ça plaise.
Mais
c'est pas con, c'est un film de siège.
Ça m'a rappelé beaucoup les
justement, moi, je films d'aventure. Un film de siège du début à la fin, ce qui n'est pas du tout le cas déjà.
Mais
je suis un peu déçu.
Mais là, tu juges sur ce que tu voulais avoir.
C'est non, mais en fait, non, mais le problème, si on propose quelque chose de mieux, moi je suis content, mais c'est après la deuxième partie, c'est moins bien. Enfin, les mecs, ils ont dit, attends, à un moment, ils prennent l'espèce de montgolfière ils veulent se déplacer jusqu'à la capitale comme ça. Oui, et à un moment, t'as un personnage qui dit, ouais, mais on a toujours foiré le truc, on va tous mourir. Et les mecs, ils le font quand même. Et ils crèvent tous. Sauf l'héroïne et le héros, évidemment.
C'est
complètement débile, quand même.
Mais c'est pas débile, c'est chinois.
Dis-moi
que t'as
chinois.
Bah oui, on t'a pris de
c'est
le sacrifice est toujours con en fait finalement.
Bah non, pas forcément.
C'est ça qui est
si chez les Chinois,
c'est posé à porter quelque chose.
On dit l'eau, c'est la grosse matière.
Par contre, je connais encore plus. La direction artistique, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, c'est un peu en demi-teinte pour moi.
C'était quoi le jeu de mots?
Sans jeu de mots tout court.
Demi-teinte, pas mal de couleur.
Ah, il est dans le turfu.
Voilà. Non, parce que finalement, en fait, c'est juste par rapport aux créatures, en fait, qui attaquent, je trouve que, voilà, que c'est un petit peu...
Bah, elles sont moches, déjà, pour le dire.
Ouais, voilà, ouais, parce qu'en fait, ce sont des bêtes, ce sont des créatures méchantes, tu sais, on les croit dégueulasses,
elles sont... Non,
c'est pas trop sauf la reine.
Elles ont des signes chinois, des ornements chinois sur la tête.
Non, c'est vraiment des bêtes légendaires, quoi, dans les histoires. C'est vraiment une légende chinoise.
C'est une bête légendaire
chinoise. C'est une vraie légende.
Tu sens le côté légende. Tu sais quand c'est une vraie légende.
C'est un peu con comme truc.
Tu sens le côté vraiment légende chinoise, quoi. Et je trouve ça, voilà, je trouve
non,
ça.
Mais c'est une légende.
C'est pas la momie avec Jet Li, quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est mieux, quoi.
Oui.
Du coup, je me rappelle qu'on avait parlé du White Machine de Matt Damon il y a très longtemps, parce que j'ai vu.
Mais d'ailleurs, c'était pas un vrai débat. Je
peux faire tomber quelque part.
Mais moi, je parlais pas de moi. Ah, si, j'avais défoncé déjà.
Oui, et oui,
alors que, alors que pour le coup, c'est pas du tout
c'est
ça.
Non, la véritable héroïne, c'est la
générale. On est d'accord. Et c'est plus lui qui apprend des Chinois plutôt que du contraire.
Bon, ça va alors.
Et c'est beau, quoi, lui.
Non, mais elle leur envoie dans leur pays à la fin, quand même. Parce qu'il
faut pas déconner non plus.
Non, elle dit, tu choisis.
Ouais, non, mais oui,
soit tu prends ton pote, soit tu restes avec moi. Ouais, il a pris son pote, le gars.
Il est pas con.
Il est malade.
C'était donc la grande muraille des amis. Dans ça, depuis
il y a Matt Damon.
Matt Damon est très bien
Alors on va passer aux choses sérieuses avec Harmonium de Koji Fukada qui est aussi sorti en janvier, qui est encore en salle, et allez le voir absolument parce que du coup il marche un peu moins bien que la grande muraille.
Donc Harmonium raconte le quotidien d'une famille japonaise qui va être perturbé par l'arrivée d'un ancien camarade, d'un ami du père, qui va venir s'inviter un peu chez eux et travailler avec le père.
Et qui tape l'incruste, en fait.
Qui tape l'incruste. Et petit à petit, on va voir cette relation évoluer. On va apprendre un peu les tenants, les aboutissants de toute cette histoire. Et bah voilà.
Après. Hashtag théorème au mieux.
Ouais, alors, c'est théorème de Pasolini.
D'après Martin, c'est théorème au
mieux. Mais en mieux, je suis d'accord.
Mais c'est un peu ça.
Non, moi, j'aime le tour.
Oui, moi aussi.
Fukada arrive à travers des évolutions subtiles, comme ça, des petits trucs de la mise en scène, à mettre en évidence le changement du monde qu'opère l'entrée du personnage dans la famille, justement, et notamment à travers la lumière, qui joue beaucoup justement
le son aussi.
Les évolutions de la lumière et du son d'après le livre.
Putain, mais comme il me bâche depuis tout à l'heure, quoi.
Non, mais de la lumière et du son, et donc ces évolutions sont justement très maîtrise un peu très subtil et très détaillé.
Un exemple du cinéma subtil.
Oui.
Il y a plus subtil que Harmonium, hein. Excuse-moi.
Oui.
Non, mais je veux dire, au niveau de ce qu'exprime la lumière dans le film, justement, elle change. Il y a une évolution au cours du film qui est justement très intéressante. Et la mise en scène de Fukada, justement, arrive à porter une histoire qui est, qui est basique, en fait, dans le cinéma japonais, un peu. Et donc sa mise en scène, justement, arrive à transcender et justement à sublimer le tout jusqu'au drame de la fin.
Nicolas, je crois que tu partages pas forcément cet enthousiasme pour Harmonium.
En fait, je suis assez d'accord sur la première partie. En fait, première partie, moi j'aime bien la première partie, toute la séquence de
où le personnage joué par arrive dans la famille et commence à dérégler cette famille qui est déjà un peu qui ne communique pas déjà, tu les vois, premier repas, ils ne se parlent pas du tout. Et c'est un personnage qui va arriver dans cette famille, qui va complètement dérégler leurs habitudes jusqu'au fameux drame. Mais après le drame, en fait, moi, ça m'a complètement sorti.
En fait, il dérègle pas vraiment leurs habitudes. Il met en exergue ce qui va pas chez eux.
Oui, voilà, c'est plutôt ça. Ouais.
Et ça qui est intéressant, c'est qu'il agit comme une sorte de conscience un peu. Et
jusqu'à cette séquence qui est pour moi la meilleure séquence du film, c'est quand ils partent en excursion sur le lac ou à côté du lac, quoi. C'est une très belle séquence et très terrible séquence par rapport à ce qui vient après. Mais je trouve que Fukada, qui m'avait vraiment émerveillé dans sa espèce de vision humaniste dans Au revoir l'été, là, je trouve qu'il tombe un peu dans le côté un peu provocateur, gratuitement. Moi, ça m'a... Enfin, ce genre de film où tu as l'impression que le réalisateur aime voir ses personnages souffrir, moi, ça me bloque au bout d'un moment. Après, c'est mon avis, mais voilà.
Yeah. Pour
ça que j'aime pas la fin.
Moi, je découvre un cinéaste. En fait, j'avais pas vu Au revoir l'été. Je l'ai rattrapé ensuite. Mais voilà, c'est un jeune cinéaste qui est en train de se former. Et donc, effectivement, il tente à chaque. Enfin, là, j'ai l'impression qu'à chaque film, il tente quelque chose de différent, quoi. Et donc, effectivement, enfin, le film, enfin, même s'il y a des rapports avec Au revoir l'été. Et vraiment, c'est vraiment autre chose, quoi. C'est, il va dans un autre cinéma et il essaye un autre truc. Et je trouve ça passionnant, quoi. Et, enfin,
j'ai pas vu en réalité, mais c'est très différent.
Il y a des gens qui juste répètent un peu leurs influences, ils vont pas au-delà. Et là, je trouve qu'il y a. Il met quelque chose de plus. Il y a des. Je m'interroge sur son utilisation de la couleur rouge de film en film. Enfin, il en met partout. Je ne sais pas pourquoi pour l'instant il le fait. J'ai envie de savoir pourquoi, donc j'ai envie de le suivre encore.
Bah là, dans Harmonium, c'est vraiment le à partir du moment où le personnage se révèle et que on sait que la violence va surgir, et bah, une fois que la violence a éclaté, il enlève sa petite combi là.
Il y a Cartable rouge aussi.
Mais tu lui avais pas posé la question sur le rouge, ou c'est nous qui avons posé la question?
C'était
lié au personnage, en fait, la couleur rouge.
Vous voyez un autre personnage
de Cannes, en fait. Vous allez avoir une réponse à la question sur le rouge, en fait.
Mais il l'utilise aussi dans Valeté, dans Sayonara.
Donc c'est vrai qu'il nous a que répondu pour Harmonium, en fait.
Il y avait un petit côté robe grillée dans le film. Je veux dire, tu penses que le film se passe sur un drame, et en fait le film n'est pas un drame, mais finalement une sorte de comédie. Et moi j'ai ressenti ça comme ça, en fait.
Comme dans la dernière partie, tu l'avais vu. Ouais.
Mais c'est toi qui l'avais trouvé drôle, le film.
Bah moi j'ai un peu
drôle. Certains moments c'est drôle, quoi.
Certains moments c'est drôle.
Les scènes de repas où il se passe rien et on entend juste genre, et puis ils se regardent comme ça, genre quoi, il y a des moments de malaise un peu, c'est de l'humour un peu qui est malaisant, quoi. C'est vraiment
ça, c'est
ouais, mais un petit côté, tu sais, un petit côté, des fois un petit côté je sais pas, un petit côté festin, un peu,
tu vois.
Je
suis pas d'accord avec toi, l'humour
japonais.
Moi
j'ai
pensé que c'est juste ordinaire, en fait.
Ça, c'est surtout dans la, c'est pour ça que j'aime pas trop la deuxième partie. Je trouve que cette dimension là elle part un peu, enfin elle disparaît un peu dans la deuxième partie. Je trouve que c'est vraiment, ça rentre vraiment dans le drame, quoi.
Dans la deuxième partie, on est vraiment dans
Le drame, et quasiment.
C'est ça, pour ça qu'il y a plus cette dimension un peu comique, et moi ça me
sort. Deuxième partie,
après la deuxième partie,
avec les apparitions,
on gagne peu à peu le fantastique aussi.
C'est pas vraiment fantastique, c'est juste genre.
C'est de l'onirisme.
C'est de l'onirisme, je crois. Je...
Non, mais par exemple,
non, mais c'est un état mental, quoi. On sent que c'est les remords de la. C'est leurs remords, quoi. Ils sont dévorés par les remords.
Mais du coup, c'est une définition.
Oui.
Bah, le fantastique, c'est pas savoir si c'est réel ou pas.
Oui, mais non, on a compris, d'accord.
Mais par exemple,
alors, d'après la définition de.
On s'en fout.
Oui, c'est ça.
Là, par exemple, toutes les séquences dans la deuxième partie entre la mère et sa fille, je trouve que c'est vraiment très lourd, en fait. Et, c'est ce genre de séquences-là qui me sortent du film. Quand entre la mère et la fille, quoi, dans la chambre de la
série. C'est de la tragédie, quoi. C'est
une lourdeur. C'est assez lourd, oui, mais c'est
pas... En même temps, regarde ce qui lui est arrivé.
Ouais, mais s'il appuie dessus, quoi.
Il va pas rigoler.
Ah, j'ai trouvé que c'était plutôt...
Il appuie... Plus, non, moi, je trouve qu'il subtil, perd un peu sa subtilité à ce niveau.
Moi, je pense qu'il a une certaine distance, justement, très Haneke, justement, sur le truc. Et c'est le spectateur...
Haneke, c'est pas toujours bien non plus.
Qui dévoile devant le cinéma.
C'est pas subtil du tout, Haneke, sur un compte.
Non, mais je veux dire qu'il a une certaine distance comparé à ce qu'il montre, et justement, comme dans Haneke, c'est le spectateur qui révèle soit son empathie, soit son sadisme, ou soit sa cruauté encore par
là. C'est exactement ce qu'il m'a dit dans l'interview.
Haneke, c'est un peu plus poussé, je trouve, parce qu'il s'adresse vraiment volontairement au spectateur, limite en faisant des gros coups.
Mais là, pour le coup, Fukada, c'est la même démarche, pour le coup.
C'est la même démarche, mais le fait peut-être plus subtilement, quand même.
Alors, il y a des cinéastes comme Fukada qui font des films extrêmement différents à chaque proposition cinématographique. Il y a des cinéastes comme Hong Sang-soo.
Ils font toujours le même film.
Tous les 6 mois. Voilà. Et avec un film qui ressemble étrangement, des fois, avec...
Au dernier, à l'avant-dernier, à l'avant-avant-dernier, en fait.
Avec quelques petites variations, comme ce Yourself and Yours, qui sort le 1er février en salle. Alors, de quoi ça parle?
Alors, je vais peut-être résumer, cette fois je l'ai vu, c'est bon, mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Me demandez pas le nom des personnages. Donc, on suit un jeune homme en couple qui, en début de film, se prend très très rapidement la tête avec sa copine parce que il reproche à sa copine en fait de boire un peu trop. Elle lui avait promis d'arrêter de boire et en fait, il a entendu par un de ses amis un soir qu'il l'a croisé. Dans un bar, elle avait beaucoup bu et elle s'était engueulée avec un homme. Qui ? Donc lui, il n'est pas très content, il en parle à sa copine qui lui dit que non, c'est faux, etc. Bref, embrouille. Elle lui dit, bah écoute, on se voit plus pendant un petit moment. Donc très lui, en fait, pendant tout le film, en fait, on le voit à la recherche de sa copine perpétuellement. Et elle, on la suit, en fait. Alors on ne sait pas si c'est vraiment elle ou pas. Qui rencontre d'autres hommes qui lui disent tous mais on s'est déjà croisé quelque part, et elle répond à chaque fois mais non, c'est pas moi. Donc elle a tout une bonne excuse, soit elle a une sœur jumelle, soit ils se sont vraiment pas vus en fait. Mais finalement on passe notre temps à voir cette femme ou une autre qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, on la voit boire des coups avec des hommes, passer parfois la nuit avec. Et je ne raconte pas la fin parce que...
Du coup, c'est le premier film fantastique dans
le sens où... quasiment le premier film fantastique. Et c'est vrai. Et c'est ça qui m'a plu, finalement. Pour moi, qui n'aime pas trop Hong Sang-soo, qui regarde pourtant tous ses films à chaque fois qui sortent. Non, c'est comme Kim Ki-dok. J'aime pas, mais je regarde. Ce film, par rapport aux deux précédents, donc c'était...
Un jour avec, un jour sans,
Hill of Freedom. C'est le premier film donc depuis on va dire un an qui me plaît, donc Sang-soo, parce qu'il y a cette dimension que j'ai trouvée plus ludique par rapport aux précédents films. Moi, les précédents films, je regardais, il y avait un postulat, c'était très théorique en fait, et je me posais pas forcément de questions. Un jour avec, un jour sans, j'ai rapidement compris les questions qu'il fallait que je me pose et ça m'a saoulé en fait. Lors de la deuxième partie du film, j'ai dit j'ai pas envie de faire le jeu des 7 différences, ça me gave. Alors que là, en fait, j'ai été amenée à me poser des questions régulièrement pendant le film, sans me sentir forcée. Je me suis naturellement posé des questions, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est pas elle? Et j'ai trouvé la dimension un peu plus ludique, et même si ça reste théorique, parce que c'est du cinéma d'Hong Sang-soo, donc ça restera toujours théorique, j'ai trouvé que ça prenait pas le pli sur la dimension ludique.
Alors en fait, moi c'est vrai que avec un jour sans, j'ai un peu demandé le divorce avec Hong Sang-soo, enfin que j'adorais jusque-là. Et en plus, pas forcément pour le côté théorique. En fait, moi c'était plutôt le côté, enfin effectivement aussi Marie qui se répète, mais qui parle à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire enfin.
Pour prendre
du cinéma ou un cinéaste qui drague des jeunes filles en buvant de l'alcool. Et pour moi, c'est un peu la vie rêvée, quoi. Donc, j'ai toujours adoré ces films pour ça.
Mais en même temps, on retrouve encore l'alcool. Il n'y a plus de cinéaste, mais on retrouve l'alcool.
Mais on retrouve l'alcool. Et en fait, effectivement, là, le truc qui m'a un peu surpris.
Il y a un cinéaste dans le film.
C'est le fait que, effectivement, dans tous ces films, c'est l'homme qui se bourre la gueule, enfin les filles aussi. Mais c'est avant tout, c'est de l'alcool un peu festif et c'est cool, quoi. Enfin, et là, c'est une fille qui boit et.
Pas plus de 5 verres.
Voilà, maintenant, la femme, par contre, c'est pas...
Ça peut une salope, hein, quand même. Hein? Ça peut une salope, quand même, la nana.
Je sais pas, j'ai pas trouvé...
Non, mais Marc avait une théorie là-dessus, que tu disais qu'elle s'en prenait plein la gueule pendant tout le film.
Non.
Si, si, ok. Tu m'as dit, ah, c'était ta première vision. À la cinquième vision, peut-être que c'est différent.
Non, c'est...
Tu disais qu'il avait pas un traitement super cool vis-à-vis de la nana, en fait.
Oui, mais ça, c'est je pense que c'est le côté un petit peu misogyne de Aung San Suu, malgré tout, qui se dit féministe et tout, mais qui finalement ne l'est pas du tout. Quoi.
Ouais, mais alors, là-dessus... Quand tu m'as dit ça, en fait, j'avais pas vu le film, et quand je l'ai vu, je me suis dit, finalement, que la nana s'en sortait bien.
Non, mais la nana s'en sort bien.
Le mec qui passe pour un con, un peu, là-dedans, quand même.
Mais, enfin, de toute façon, c'est effectivement ça. Enfin, genre, dans ses autres films, de toute façon, le personnage principal, qui est un peu son double, passe toujours pour un con quand il est bourré. Enfin, il a une vision de lui-même un peu...
Mais j'ai l'impression que son double, cette fois, c'est une femme, en fait, bizarrement.
Mais, et là, évidemment, c'est...
bizarrement, j'ai l'impression qu'il s'est mis dans une femme,
en fait. Il s'est mis dans la peau de la femme, évidemment. Mais après...
Le film questionne le genre, encore.
Ouais.
Une femme et un homme.
Et effectivement, moi, même si je suis pas hyper emballé par le film, c'est vrai que le côté très très fantastique de base, effectivement,
ça change, en fait, quoi. Ça fait du bien.
Bah ouais, vraiment, c'est bien, en fait. Bah ouais, cool. Enfin, quelque chose qui change un peu. Enfin, dans cette répétition qu'il aime bien, on va faire toujours à peu près le même film. Bah. Comme d'ailleurs dans tous ces films, il y a l'impossibilité de faire la répétition, parce qu'à chaque fois il change, on ne peut pas faire.
Là j'ai trouvé que la variation était plus importante et du coup moi ça m'a davantage plu, en fait.
Oui, moi
aussi. J'ai pas eu l'impression de regarder le même film à chaque fois et je me suis dit, oh, enfin une vraie variation. Parce qu'effectivement lui se retrouve plus dans le rôle de la femme, parce que le mec c'est vraiment un loser finalement.
Non, il croit à l'amour.
Non, mais il se fait avoir, je suis désolée. Il se fait avoir comme un con.
À un moment, il est bourré, il dit ouais, vous comprenez pas.
Ouais, mais il se fait avoir comme un con du début à la fin, en fait.
Ce que je pense sur Aung San Suu, c'est qu'il faut dire, c'est que en faisant des petits films, il fait des grands chefs-d'œuvre.
Et alors, ton rapport avec Stendhal, dont tu as parlé tout à l'heure,
c'est un film stendhalien, c'est un film eustachien, tout à fait, parce que la personne qui est donc le personnage principal du film croit en l'amour absolu et il croit coûte que coûte que la fille avec qui il est la fille la promise, et alors que en fait c'est complètement faux, genre c'est juste une tox qui
enfin Stendhal, elles sont pas toutes tox dans le chez Stendhal quand même,
et voilà, et donc
c'est un romantique absolu, en fait
c'est un lien, parce qu'en fait il cristallise son amour alors que son amour est bidon.
Oui, c'est vrai.
Mais quel amour n'est pas bidon. Et là, c'est pour ça que... Et c'est pour ça que, en fait, je trouve que le film est vraiment très très bon. Parce qu'en fait, il est eustachien. C'est-à-dire, il est dans le délit de l'amour lui-même.
Oui, bien sûr, cette note positive.
On va tous mourir de toute façon, fuck.
Vive l'amour, quand même.
Très belle, très belle musique.
Très, très entêtante.
Oui.
Si on peut l'écouter, d'ailleurs, ça serait cool.
Et c'est, je dirais, le deuxième ou troisième meilleur film de Aung San Suu depuis Arsani ou alors La femme de mes amis. Oh,
c'était bien La femme de
mes amis. Oh non, c'est
chiant. En tout cas, merci à Elvire aussi pour cette défense inattendue de l'ancienne
femme de l'ordre. Tout arrive.
C'est incroyable. La prochaine fois, Martin défendra le film.
S'il ne s'est pas endormi devant.
Et à propos de prochaine fois, du coup, on parlera de La femme qui est partie, de La Piaz, du Cercle Ring et de Silence de Martin Scorsese dans le prochain podcast qui sera en ligne fin février, à peu près.